Ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 12, verset 35. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Par exemple, si vous pensez que vous pouvez changer quelque chose de ce que Dieu a créé, vous vous trompez. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que la prière, en fait, ça sert à ça. Et malgré le fait que rien ne change jamais, ils continuent à prier en pensant échapper à la volonté de Dieu, c'est-à-dire tourner la volonté de Dieu, faire que Dieu change d'idée. Quel petit Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne fait pas ce que nous lui demandons. Dis avec moi, Dieu ne fait pas ce que nous demandons. Dieu ne fait pas ce que nous demandons. Ah, et pourtant la Bible dit, demandez, vous recevrez. Non, oui. C'est à nous de faire ce qu'il demande. Et quand nous faisons ce que lui, il nous demande, alors notre être, lui étant soumis, notre être, notre âme, notre cœur, notre intelligence, tout ça lui étant soumis, nous sommes en harmonie avec lui et nous prions selon sa volonté. Et c'est ça, la prière exaucée. Alors, il ne faut pas se tromper. Par exemple, quand on prie, Jésus nous enseigne de prier, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, ça n'est pas qu'une autre volonté pour être faite. Jamais. Quand nous prions que ta volonté soit faite, nous proclamons ce que nous avons dans le cœur. Et ça glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, sa personne. Ce n'est pas que Dieu a besoin qu'on le prie pour que sa volonté soit faite, afin que sa volonté soit faite. Ça serait vraiment être bête pour croire ça. Ce qui est parfait ne peut pas être rendu imparfait. Or, Jésus a tout accompli d'une façon parfaite par l'expiation à la croix. Ça va se mettre à sonner, vous allez voir. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans ce tout, il y a la notion de la perfection. Ce qui est parfait ne peut pas être rendu imparfait. Et ce qui semble, ce qui vous semble, ou ce qui me semble imparfait, ne l'est pas. C'est juste notre point de vue, notre mal-perception en fait. Écoutez bien ça. C'est un mystère que je vous dis là. C'est Satan qui a créé le besoin dans le jardin d'Éden. Ève, elle a prêté l'oreille au mensonge du serpent. Et tout ce qu'elle a entendu, c'était faux. Et depuis, l'humanité entière est vouée à la vanité, à la poursuite du vent. Tout est poursuite du vent. Jésus a dit, tout est accompli. Dans le tout, il y a la perfection. Tout est vanité et poursuite du vent. Jésus est venu et nous a réconciliés avec le Père. Et maintenant, contrairement aux gens du monde, contrairement aux ignorants, nous ne sommes plus obligés de continuer à croire ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui est faux peut disparaître en un clin d'œil parce que ce n'est que mal perception. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, ça. Je l'invente. C'est comme ce qui se voit en rêve. On croit que c'est vrai. Ça paraît vrai. Mais ça ne l'est pas. Écoutez bien ça. Depuis qu'un profond sommeil est tombé sur Adam, rien n'a plus été comme avant. On pourrait faire une chanson avec ça, ça rime. Ça a été le début d'une nouvelle condition, la condition de la séparation. Tout avait son contraire, sauf l'homme. L'homme, l'Adam, quand ce profond sommeil est tombé sur lui, quand il s'est réveillé, il n'était plus ce qu'il était au commencement. Il n'était plus ce qu'il était au commencement. Il y a eu la séparation, c'est-à-dire il y a eu la dualité. Quand Dieu a pris Ève de Adam, le début de la dualité humaine a commencé. Et ça nous a conduit à la chute. Les religions, les religieux appellent ça la chute. Mais en fait, c'était le passage obligé pour que Dieu et nous soyons unissables. Son épouse, aujourd'hui, l'épouse de Dieu, est sur le point d'être enlevée par lui parce qu'elle est devenue unissable à lui. Et ça a été un très long travail. Ça a été un processus. Et la Bible dit que ce que nous sommes va bientôt être révélé. La nature entière attend ce réveil du vrai homme. Depuis qu'Adam s'est endormi, l'homme s'est jamais réveillé comme il était avant. L'homme spirituel, l'homme à l'image de Dieu, ayant comme Dieu la connaissance du bien et du mal. Parce que Adam n'avait pas ça avant le sommeil. Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal parce qu'il n'y avait pas cette dualité en lui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il nous faut une vie de miracle. Dans notre intelligence, pas simplement quand on parle de miracle, c'est pas simplement marcher sur l'eau. Ça, tout ça, c'est bien sûr que Jésus a marché sur l'eau, mais c'était pour nous montrer, il a fait des gestes symboliques pour nous montrer que nous n'avons pas à marcher comme tout le monde, là où tout le monde marche. Tout ce que Jésus en fait a fait, il l'a fait pour nous montrer que nous pouvons le faire. Mais très souvent, ce sont des gestes symboliques. Et Dieu s'est choisi une épouse, formée d'une multitude d'hommes et de femmes, séparés les uns des autres. On est tous séparés les uns des autres. On est même séparés d'une partie de l'épouse par le temps. Il y a une partie de l'épouse qui n'est plus sur cette terre, qui n'est plus incarnée, qui a vécu tout au long des siècles. Et il va réveiller tout ce petit monde pour en faire une épouse, un être divin, aussi divin que lui-même. Alors les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des épreuves, ne sont pas des punitions, elles sont des chances offertes pour que nous exercions notre pouvoir, pour que nous nous exercions au pouvoir. Les chrétiens prient trop. Ils oublient d'exaucer Jésus, parce que Jésus lui prie, Jésus nous demande, Jésus nous prie de faire des miracles en son nom. Les miracles sont à notre portée puisqu'il nous dit de les faire. Il n'y a rien que les miracles ne puissent faire. Simplement, notre esprit doit être un, sans doute, sans peur. Et quand nous sommes ensemble, ce que nous sommes tout le temps, nous devons être un. Là où deux ou trois sont assemblés, ensemble, d'accord. Et voilà où je veux en venir ce soir. Quand tu as peur de quelque chose, tu reconnais à cette chose un pouvoir qu'elle n'a pas. Rien n'a le pouvoir de te blesser. C'est ce que Jésus dit, il le dit autrement, mais il le dit. Il dit, rien ne peut te nuire. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ça signifie que tu crois dans ce que tu estimes. C'est-à-dire, quand tu as peur, tu estimes mal. Tu retournes en arrière, tu retournes dans le système de la dualité, dans le système de la séparation, dans le système où tu n'es pas un avec Dieu par Jésus-Christ. Ton cœur juge encore. Ton cœur donne des valeurs à ce qui n'en a pas réellement. Ton trésor est souillé. Ton intelligence se met à tourner vite, dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, dans le passé, dans le futur, dans tous les sens. Tu t'agites en pleine dualité. Tu as perdu de vue la vérité, tu as perdu de vue Jésus. Jésus est un et il a tout accompli pour que son épouse soit un, comme il était un avec le Père et quand il marchait sur cette terre. Il était un avec le Père, même s'il marchait sur cette terre. Et il veut que nous arrivions à cette stature-là. Il veut nous voir grandir, atteindre cette stature parfaite. Arrêter d'être bousculé de gauche à droite, de haut en bas, dans le passé, dans le futur, ayant des points de référence qui sont hors de nous. Nous sommes un. L'unité avec nous-mêmes, plus de séparation. Il nous veut intègre, je vous ai déjà prêché ça. Il nous veut intègre, c'est-à-dire il nous veut entier, un, bouillant, uni. Et l'Église, un seul cœur, une seule âme, un seul but, tous soumis. Les uns aux autres. Pas de « moi j'ai pas envie, je me sens pas poussé ». Ça, c'est la chair. Quand l'intelligence est troublée, il n'y a pas de paix. Quand ton intelligence est troublée, il n'y a pas la paix. Et c'est pourquoi la Bible parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Il faut que la paix surpasse l'intelligence. Cette intelligence nie tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà où nous devons en arriver. À nier tout ce qui n'est pas de Dieu. Regardez Jésus. Jésus renvoie ses disciples un jour avec les barques. Et il nia l'impossibilité apparente qu'il ne pouvait pas les rejoindre à pied en marchant sur l'eau. Il a nié ça. Il savait qu'il n'y avait pas de barque. Jésus ne paya pas l'impôt, niant l'impossibilité apparente que la somme se trouverait dans la bouche d'un poisson. Voilà le bon usage du déni. Déni, on va appeler cette prédication le déni. Le déni, c'est refuser d'accorder ce qui est dû. Le déni, c'est refuser d'accorder ce qui est dû. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut refuser de payer l'impôt. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut refuser de payer la dîme ou ce que vous devez. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous pouvons refuser d'accorder notre attention à ce qui fait peur au commun des mortels. Le commun des mortels vit dans la dualité, plus nous. Tout est accompli, nous faisons partie de ce tout. Nous sommes un avec lui. Et si nous demeurons en lui, toutes choses deviennent possibles. Mortels. Nous ne sommes plus mortels. Nous sommes immortels. Même si tu meurs, la Bible dit, Jésus dit, ne mourra pas. Quiconque croit en moi ne meurt pas. Mortel, c'est ce que nous sommes devenus depuis la séparation, depuis que Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam. Là, nous sommes devenus mortels. Ah bon, vous allez me dire, on croyait que c'était à la chute. Ève séparée d'Adam, c'est le processus qui est enclenché. Puis, Ève toute seule, chute. Pourquoi ? Parce qu'affaiblie, parce que pas assez solide. Ensuite, Adam la suit dans la chute. Et la mortalité s'est installée en opposition à la vie. Il n'y avait que la vie. Il n'y avait pas la mort. Et voilà que la dualité est arrivée. Pourquoi ? Parce que Ève a été séparée de Adam. Ève était en Adam. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons demeurer en lui. En Jésus-Christ, nous avons retrouvé la vie sans la mort en face. Plus de dualité. Cependant, il faut quand même regarder les choses en face. Il y a un temps durant lequel nous sommes en train de vivre sur cette terre, dans ce monde où le système maudit de la dualité règne en plein. Et comment est-ce que nous vivons ça ? Eh bien, nous le vivons comme Adam a vécu avec Ève pas mal de temps avant la chute. Mais le processus était engagé. Le processus de la chute était engagé. Avant le fait de la chute, c'était déjà le processus de la chute qui était engagé à partir du moment où Ève est sortie d'Adam. Adam n'était plus complet depuis que sa partie féminine avait été extraite de lui en partie. Et depuis que le sommeil de la mort est tombé sur Jésus-Christ sur la croix, nous sommes nés, nous sommes sortis de lui. L'eau et le sang. De lui est sortie son épouse. Et ça fait 2000 ans que Jésus et son épouse se manifestent sur la terre. Et ça, c'est le processus du rétablissement qui s'est enclenché. Nous sommes aujourd'hui dans le processus du rétablissement de toutes choses, mes frères et sœurs. Nous sommes en plein dedans. Ce processus parviendra à son achèvement, c'est certain. Aussi vrai que Ève chuta, aussi vrai l'épouse sera enlevée. La fin du premier processus, c'était que Ève a chuté et son mari l'a suivi dans la chute. aussi vrai le processus maintenant depuis que le sommeil est tombé sur le deuxième Adam, eh bien, Ève est sortie de là. Maintenant, nous nous baladons avec notre époux sur cette terre, mais la fin du processus, c'est que nous serons unis avec lui. Amen. Aussi vrai, c'est vrai. Alors, il faut que tu emploies le véritable déni. Le véritable déni, c'est un puissant mécanisme dans le processus qui te protège, qui te fait grandir. Tu peux l'employer, tu devrais l'employer, tu devrais nier toute croyance qui veut que l'erreur peut te blesser, que tes péchés peuvent te blesser, que la maladie peut te blesser, que la pauvreté peut te blesser, que ceci ou que cela peut te blesser. Tu dois, tu peux et tu dois, je vais être gentil, je vais dire, vous devriez nier toute croyance voulant que l'erreur peut vous blesser. Ce déni, ce n'est pas une dissimulation de la vérité. Ce n'est pas dire, ah non, je ne veux pas regarder ça, non, je ne veux pas voir ça, ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça. Ce déni, c'est la correction jusqu'à ce que paraisse la vérité. La vérité, ça, c'est fini. Ce monde de dualité, ce monde de bien, de mal, de péché, de maladie, de santé, de toutes ces choses mises l'une face à l'autre, tout ça, c'est déjà terminé. Le processus est enclenché pour l'unité. Alors, tu vois que tu n'as même pas le choix en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas le choix. On va me dire, ah oui, mais alors comment ? Mais non, non, tu n'as pas le choix. Réfléchis. Qui hésiterait entre une assiette de fumier et une table au cost ? Personne. À moins un fou, peut-être. On ne propose même pas le choix. Je dis, Simone, qu'est-ce que tu préfères ? Une assiette de fumier ou une bonne table au cost ? Ça, on ne pose même pas une question, c'est une insulte. Eh bien, de même, nous ne devrions même pas avoir nous ne devrions pas choisir dans cette histoire-là. On doit nier. Parce qu'on dit toujours qu'il faut confesser la vérité, il faut confesser la parole de Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi nier. Il y a des choses qu'il faut nier. Non. Rien ne peut me nuire. Non, ça n'a aucune puissance contre moi. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est quelle est la valeur de ton but ? Est-ce que ton but, c'est quoi ton but ? La vie éternelle, mais est-ce que tu y as pensé ? Est-ce que tu as réfléchi ? Comment ça va être ? Ce que tu veux ? Ce que tu attends ? Ce que tu espères ? À quoi tu penses quand tu penses la vie éternelle ? Est-ce que tu t'en occupes ? Est-ce que tu t'occupes du royaume de Dieu, de sa justice, de l'établir déjà ici-bas, dans les prémices de ce que ce sera plus tard ? Mais est-ce que tu y penses ? Est-ce que ça occupe ta pensée ? Ou est-ce que ce qui occupe ta pensée, c'est juste « Bon, ben, va falloir finir le mois, je ne sais pas trop comment on va faire. » Ou des trucs comme ça, à court terme, ou à plus ou moins long terme. Quelle est la valeur de ton but ? Ton trésor intérieur est-il précieux ? Est-il de valeur éternelle ou est-ce qu'il est rempli de trucs qui passeront ? Bien sûr qu'on s'occupe de trucs qui passeront. Nous avons le droit. Mais ces choses n'ont pas le droit de nous retenir sur le chemin du but que nous nous sommes fixés avec l'aide de Dieu. À quel point ton trésor est-il précieux ? Défends-le. C'est, en fait, l'énergie que tu mets à le défendre montre la valeur qu'il y a dans ton cœur. Le processus de Dieu, c'est l'amour. Et l'expiation, c'est un acte d'amour. Ton trésor est-il de cette nature ? Est-ce de l'amour ? Si c'est de l'amour, la peur n'a aucune chance contre toi. Est-ce qu'elle trimballe non plus d'ailleurs ? Parce qu'on n'a pas peur pour rien, on a peur pour des choses. Alors ces choses-là n'ont pas de valeur pour toi, elles n'ont aucune chance contre toi. Parce que dans ton cœur, il y a cet amour. Pour Dieu, pour les gens, pour les frères et sœurs en particulier. Tu es dans la victoire, même si tu devais mourir, comme je vous le disais. Depuis que la séparation a eu lieu, qu'Ève est sortie de Adam, il n'y avait rien qui puisse être suffisamment fort pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous unir à nouveau, pour que nous soyons de nouveau la personne que Adam était avant. Et pour faire de nous l'épouse de Christ, il n'y avait rien d'assez fort, de suffisamment pur. Il fallait un acte d'amour, et cet acte d'amour, il fallait qu'il soit extérieur à nous. Un acte qu'on ne puisse pas salir, un acte qu'on ne puisse pas mésestimer. Et l'expiation, c'est ça, c'est cet acte-là. C'est l'acte d'amour parfait. L'acte qu'on ne peut pas utiliser pour détruire. Parce qu'il vient de Dieu, il ne vient pas de nous. Nous n'avons rien à voir là-dedans. On y entre par amour, on y demeure par amour. Et celui en qui demeure l'amour ne connaît pas la peur de l'échec. Alors on approche du jour où nous fêtons la crucifixion de Jésus-Christ et ensuite sa résurrection. Nous approchons de ce jour où l'expiation a été accomplie. Ce jour est aussi historique que le jour où un profond sommeil tomba sur le premier Adam. La mort tomba sur Jésus, mais elle fut trompée comme elle trompa Ève. C'est justice. Ô mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? Elle est foutue, elle le sait. Le processus est enclenché, mes frères et sœurs. Voilà quelque chose qui devrait réjouir votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? S'il y a ça, votre cœur est réjoui. Le processus de la victoire est enclenché. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de s'occuper de nos petits états d'âme. Ça, c'est charnel, voire diabolique. Jésus a dit à Pierre, tu es charnel, diabolique. L'ordre est de faire des miracles. On me dit, oui, bon, comment, dans le cadre de mon travail, puis je fais des miracles. Ben, tu peux faire des miracles partout. Des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est ça que Jésus veut. Qu'on fasse des choses qui sortent de l'ordinaire. Un jour, il a dit, que faites-vous d'extraordinaire si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Frères et sœurs, faites des choses extraordinaires. Aimez. Amen. Jésus veut y bénir ses paroles, veut y garder nos cœurs toujours dans la paix, que nous puissions toujours conserver ce trésor, ce bon trésor que tu y as déposé, et que nous sachions le défendre en confessant ta parole, mais avec le déni aussi, refusant ce qui nous est demandé comme un dû par l'ennemi. Nous refusons de lui accorder une valeur et nous déclarons notre victoire acquise par Jésus, par l'expiation à la croix, et nous nous réjouissons de marcher, Seigneur notre Dieu, en nouveauté de vie, allant de l'avant vers ce but merveilleux que tu nous as donné. Tu nous as averti des choses comme quoi elles arriveraient, sont en train d'arriver, nous les voyons se profiler. Et nous savons, Seigneur Jésus, que ce n'est pas le moment de s'assoupir comme les vierges folles, comme les vierges sages, mais c'est le moment d'être debout et de toujours être dans cette expectative, d'être dans cette urgence de ton retour. Merci Jésus, que tu nous puisses nous trouver veillants et priants, agissant, travaillant dans ton œuvre, faisant les choses pour lesquelles nous avons été créés. Merci Jésus. Amen.